dans notre façon de faire quotidienne. Peut-être que nous pouvons commencer par un chant d'entrée pour tourner notre regard, notre esprit vers notre Seigneur.
Page 7, ô vive flamme d'amour.
Vive flamme, Esprit Saint, embrase-nous, et c'est ce que nous sommes appelés à vivre dans la prière. Alors je voudrais commencer très simplement avec vous, avec deux petites anecdotes. La première, c'était il y a quelques jours, Ahmed, un musulman converti à Jésus-Christ, me disait « Mais frère Cyril, vous vous rendez pas compte, j'ai été musulman pendant des décennies, et j'étais un bon musulman, comme on dit, j'ai prié, j'ai fait mes prières à la mosquée, je faisais mes prières chaque jour, mais il ne se passait rien. Et maintenant que je suis catholique, maintenant que je fais oraison, là, je sens qu'il se passe quelque chose, qu'un lien vivant se tisse entre moi et Dieu, qui ne m'est plus inaccessible comme cela l'était auparavant. Et c'est vrai, le propre de la prière chrétienne est qu'il y a quelque chose de mystérieux qui se passe au sein de notre prière, le Seigneur qui se donne à nous. Prenons une deuxième anecdote que vous connaissez peut-être. Il s'agit de Rajesh. Un homme né à l'île Maurice de religion hindoue et qui avait passé beaucoup de temps à Calcutta, en Inde, pour se mettre à l'école de maître hindou pour lui enseigner la prière. Et il témoigne, je le cite, « Je suis allé dans tellement de temples, j'ai rencontré tellement de gourous, tout était très paisible, mais ma vie ne changeait pas. J'étais à la recherche d'un Dieu vivant. » Alors après sa jeunesse à l'île Maurice, après ses quelques années passées en Inde où il cherchait à mieux prier à travers ses gourous, il est parti en Italie. Et alors là, sur place, il rencontre un jeune garçon, un chérubin aux cheveux bruns, c'est lui-même qui prend l'expression, un chérubin aux cheveux bruns nommé Carlo Acutis. Et il va être embauché par la famille pour être le précepteur, l'éducateur de Saint Carlo Acutis. Et c'est ainsi qu'il va se convertir, recevoir le baptême en 1999. Rajesh est toujours vivant et il témoigne que la différence entre la prière chrétienne et la prière telle qu'on lui avait enseignée jusque-là n'a rien à voir, puisqu'il y a un lien vivant qui se passe, qui se tisse au sein de la prière, une rencontre avec celui qui est le très haut, mais qui est également le très proche. Et c'est effectivement ce que dit sainte Thérèse d'Avila. Notre mère sainte Thérèse, à travers une définition universellement connue de l'oraison, que vous trouvez à la page 10, où elle écrit « Selon moi, l'oraison mentale n'est autre chose qu'une amitié intime, un entretien fréquent, seul à seul, avec celui dont nous nous savons aimer. » Alors, remarquons-le bien, quand Thérèse parle d'oraison, Le, faut pas s'y tromper, hein, le mot espagnol « ratio » comme en italien, en latin « ratio » aussi, signifie « prière », tout simplement. Donc nous allons parler de la prière. Quelle que soit votre manière de prier, oraison silencieuse à l'école carmélitaine, ou bien prière du chapelet ou autre, les repères qu'on va se donner tout au long de la journée sont valables, quelle que soit la prière qui est la nôtre. L'oraison, la prière mentale, n'est pas autre chose qu'une amitié intime, un entretien fréquent, seul à seul, avec celui dont nous nous savons aimer. Et alors, ce qui est important dans cette citation, c'est « dont nous nous savons aimer ». Que veut nous dire Sainte Thérèse par là ? Eh bien, que dans notre prière, nous nous approchons de quelqu'un que nous connaissons, de quelqu'un qui vient à nous, de quelqu'un qui s'est incarné et qui nous a sauvés, Jésus, notre Seigneur. Et comment savons-nous que nous sommes aimés ? Comment connaissons-nous celui qui nous aime ? À travers la lecture des Écritures. Alors, je voudrais commencer par là, c'est un point de repère assez fondamental. La lecture des Écritures, la lecture de la Bible est un grand moyen pour nourrir notre esprit, notre intelligence, notre imagination, notre cœur, afin de favoriser le recueillement dans notre prière et laisser cette relation amicale, intime, dont parle Sainte Thérèse, s'installer en nous. En effet, si je veux prier, si je veux entrer dans cette relation intime avec mon Seigneur, qui m'informe sur l'identité de celui que je suis en train de prier ? Ben, personne d'autre que la Bible, que les Écritures. Quand nous célébrons les sacrements, tout à l'heure nous allons avoir le sacrement de l'Eucharistie, c'est la parole de Dieu, la Bible en acte. Le prêtre va redire les paroles du Christ lui-même et vous-même, vous répondrez des formules, des citations bibliques. « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis une parole et je serai guéri. » C'est le centurion de Saint Matthieu, chapitre 8. « Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Comment donc pouvons-nous entrer en relation avec quelqu'un, Dieu lui-même, si nous ne le connaissons pas ? Eh bien, la lecture... Vous avez la citation dans vos livrets. La lecture, si courte soit-elle, est d'un très grand secours pour arriver à se recueillir. Elle est même nécessaire pour remplacer la prière mentale qu'elles ne peuvent pas faire. Si le maître qui les guide les oblige à demeurer longtemps à la prière sans ce secours, c'est la page 9, elles ne pourront y persévérer longtemps. C'est une pratique qui est assez répandue parmi les chrétiens que nous sommes, et elle est très bonne, d'avoir avec nous un prions en église, un magnificat, un parole et silence ou autre, et qui nous aide à lire ne serait-ce que les textes de la messe, voire également les laudes et les vêpres du jour, et cette habitude est très bonne. Je vous encourage, frères et sœurs, à fréquenter la Bible, l'Écriture sainte, parce que plus vous la fréquenterez, plus votre prière sera aisée, sera facile, parce que cette amitié avec Dieu, vous y serez plus à même d'y pénétrer, parce que vous le connaîtrez davantage, tout simplement. Peut-on connaître un ami sans savoir qui est cet ami ? Puis-je entrer en relation d'amitié avec quelqu'un si je ne connais pas ce quelqu'un ? Et donc, la lecture de la Bible est un repère absolument indispensable quand nous voulons bien prier. Et Sainte Thérèse d'Avila dit elle-même, « Pour moi, je suis restée plus de 14 années sans pouvoir méditer, sinon à l'aide d'un livre. » Donc quand je suis en prière, et que ma prière, on y reviendra en début d'après-midi, est sèche ou je suis distrait, je n'arrive pas vraiment à me recueillir, il ne faut pas hésiter à prendre à la Bible à portée de main, ou un livre de spiritualité, ou bien ce magnificat, ce prier en église ou autre, et lire un passage qui va nous aider à nous recueillir. Sainte Thérèse d'Avila le dit, hein, c'est une citation que vous avez également à la page 10. Page 9 et 10, pardon. « Jamais, durant tout ce temps, excepté quand je venais de communier, je n'osais aborder l'oraison, la prière, sans un livre. Sans lui, mon âme éprouvait le même effroi que si elle avait eu à lutter seule contre une multitude ennemie. L'ayant à côté de moi, j'étais tranquille. C'était une compagnie, c'était de plus un bouclier sur lequel je recevais les coups des pensées importunes qui venaient troubler ma prière. D'ordinaire, je n'étais point dans la sécheresse, mais jamais je n'y échappais quand je me trouvais sans livre. Remarquez ce qu'elle dit. Je n'ai pas de livre, je n'ai pas fréquenté l'écriture, ma prière est sèche. Soudain, mon âme se troublait, mes pensées s'égaraient. Avec mon livre, je les rappelais doucement, et par cette attrayante amorce, j'attirais, je gouvernais facilement mon âme. Souvent, je n'avais besoin pour cela que d'ouvrir le livre. Quelquefois, je ne lisais quelques lignes, cela suffisait. D'autres fois, par contre, je lisais plusieurs pages. C'était suivant la grâce que notre Seigneur m'accordait. Alors bien sûr, on pourrait se dire, mais on a passé des siècles sans savoir lire, pensons au Moyen-Âge, comment faisait-on à l'époque, ou bien aujourd'hui, on peut prier le chapelet, qui ne nécessite pas, pendant la prière du chapelet, d'avoir un livre à côté de soi. Mais remarquez tout de même, frères et sœurs, que le chapelet, c'est la méditation des mystères qui sont dans la Bible. L'Annonciation, la Visitation, la Nativité, le couronnement d'épines, la crucifixion, la résurrection, etc. C'est dans la Bible. Alors, comment lire la Bible pour nourrir notre vie de prière, pour nourrir notre vie spirituelle? Quelques repères très simples, sans faire un exposé sur la Lectio Divina, parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je dois m'efforcer chaque jour, quand je lis le texte, par exemple, du jour, le texte de la messe, de lire ce passage comme si je ne le connaissais pas, comme si c'était la première fois que je le lisais. Sinon, je vais tenter de le lire avec ce que j'ai déjà médité, ce que je sais déjà de lui, et en fait, je ne vais pas en retirer grand-chose. Il est bon, quand je lis un texte de la Bible, de le lire de manière gratuite. Ensuite, il est bon de le lire, puis de le relire une deuxième fois, et puis une troisième fois, en m'arrêtant, en me disant, mais pourquoi Jésus a-t-il dit ça? Quel geste a-t-il posé? Pourquoi n'a-t-il pas fait ceci? Moi, dans la scène, où est-ce que je serais? Quel mot a-t-il utilisé? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Etc. Tout cela est bon. Imaginons-nous être dans la scène, cherchons le regard de Jésus, n'ayons pas une lecture passive de l'écriture, de la Bible. Parce que c'est parfois le danger. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, mais il nous arrive parfois, je prends le texte de la Bible du jour, je lis une fois, ça ne me dit rien. Puis je lis une deuxième fois, une troisième fois, ça ne me dit toujours rien. Je suis sec, je ne suis pas touché, puis je connais déjà cet évangile, et puis non, vraiment, ça ne me dit rien. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais dans ces moments-là, le Seigneur met le doigt sur une petite habitude que l'on a et qu'il faut corriger. Cette habitude, c'est de lire la Bible, lire l'Évangile uniquement avec notre affectivité. Lire, relire jusqu'à ce que je sois touché. Et parfois, je reste et je demeure sec. Dans ces moments-là, le Seigneur me demande de lire avec mon intelligence et j'ai envie de dire ma rationalité. Par exemple, je vais lire un texte que je connais déjà. Prenons par exemple l'évangile de ce jour, Luc 15, avec ce fils prodigue. On connaît déjà cet évangile, il est quand même très célèbre, il a fait l'objet de nombreuses peintures. Alors je le lis une première fois, ça ne me dit rien, puis je lis une deuxième fois, une troisième fois, je ne suis toujours pas touché, ça me laisse sec. Et puis, je me dis, c'est dans ce moment-là où justement il faut que j'ai une approche, intellectuelle, rationnelle, parce que je ne suis pas qu'un cœur. J'ai également un esprit, une intelligence que Dieu demande que j'utilise également dans mon rapport à lui. Et alors je le relis encore une fois. Et puis à la fin, je vais raisonner en me disant, mais au fait, il y a le Père, il y a le Fils prodigue qui revient vers le Père, mais où est Jésus ? C'est une des paraboles où le Fils n'est pas là. Où est Jésus ? Parce que ce Fils prodigue n'aurait pas pu revenir vers le Père et recevoir son pardon si Jésus ne l'avait pas donné sa vie pour que justement nous puissions revenir dans la maison du Père et recevoir le pardon de sa part. Alors je vais réfléchir et puis je me dis, bah si, Jésus, c'est le chemin qu'il a emprunté, c'est le chemin du retour. Il n'y a pas d'autre chemin qui était possible pour lui pour revenir à la maison du Père. Alors oui, Jésus n'est pas clairement indiqué dans cet évangile du Fils prodigue, mais c'était lui le chemin qu'a emprunté le Fils prodigue pour revenir vers le Père. Et ça va me toucher. Je suis passé d'une considération purement intellectuelle, une question purement rationnelle, qui progressivement est passée de ma tête à mon cœur. Et là, le recueillement commence à se faire. Selon moi, je reprends la définition très célèbre de Thérèse, selon moi, l'oraison mentale n'est pas autre chose qu'une amitié intime, un entretien fréquent, seul à seul, avec celui dont nous nous savons aimer. Seul à seul. Notre Seigneur recherche notre intimité. Notre Seigneur veut nous rejoindre, seul à seul. Pourquoi ? Parce que nous sommes chacun son fils, sa fille. Et il veut avoir la relation qu'un père ou qu'une mère a avec son enfant. Et vous savez que chaque enfant est unique. Une maman pourra avoir de nombreux enfants. S'il y en a un qui vient à décéder, elle pourra avoir de nombreux autres enfants. Personne ne remplacera l'enfant qui est décédé. Personne. Aucun autre enfant, si bon, si rayonnant soit-il. Eh bien, nous sommes pareils aux yeux de Dieu. Nous sommes uniques. Et notre Seigneur veut nous rejoindre dans cette unicité qui est la nôtre. Dans la prière, Dieu vient à moi comme si j'étais seul au monde. Et il vient à moi dans ce cœur à cœur, seul à seul. Dieu n'aime pas l'imaginer comme ça, Dieu n'aime pas, pardon, l'humanité comme ça de manière générale, vague et impersonnelle. Et puis moi, je ferai partie de ce monde général, vague et impersonnel. Jésus nous aime chacun et chacune d'un amour particulier, intime, comme si j'étais le seul au monde. Si par extraordinaire, Adam et Ève n'avaient pas péché, et que parmi toute l'humanité, il n'y avait eu que moi qui étais pécheur, Dieu se serait incarné en Jésus et il serait monté sur la croix uniquement pour moi. Alors, pour favoriser cette intimité, cette présence de Dieu qui se tient là, à mes côtés, Thérèse nous demande de faire preuve de patience. Voilà l'habitude que vous devez prendre, c'est à la page 10. Voilà l'habitude que vous devez prendre. Je sais que vous pouvez y parvenir, car j'ai subi de longues années cette épreuve de ne pas pouvoir fixer ma pensée sur une chose, et c'est très pénible. Mais je sais aussi que le Seigneur ne nous abandonne pas au point de refuser de nous tenir compagnie si nous le lui demandons humblement. Si nous n'y parvenons pas en un an, persévérons des années. Ne regrettons pas le temps que nous y employons si utilement. Qui nous presse ? Je le répète, on peut prendre cette habitude et apprendre à vivre auprès de ce divin maître. Qui vous empêche, poursuit Thérèse, de tourner les yeux de l'âme vers ce Seigneur, ne serait-ce qu'un instant, si vous ne pouvez vous y arrêter plus longuement. Considérez qu'il n'attend que cela, que nous le regardions. Quand vous le voudrez, vous le trouverez. Si vous êtes dans l'épreuve ou triste, considérez-le en route vers le jardin des Oliviers. Quelle profonde affliction dans son âme, puisque lui l'endurance même, il l'exprime et s'en plaint. Ou regardez-le chargé de la croix, dont le poids l'empêchait de respirer. Il vous regardera, lui, de ses beaux yeux, si compatissant, plein de larmes, il oubliera ses douleurs pour consoler les vôtres, à seule fin que vous cherchiez votre consolation auprès de lui. Thérèse nous dit que dans notre prière, efforçons-nous de nous imaginer être à ses côtés, à côté de Dieu le Père, ou bien à côté de Jésus lui-même, ou bien dans le feu de l'Esprit Saint, ou bien au milieu de la cour céleste. Peu importe, à notre goût, nous sommes enfants, enfants de Dieu, nous sommes libres, faisons à notre manière. Sainte Thérèse, sa manière de faire, régulière, était de commencer son oraison en se tenant à côté de Jésus au jardin des Oliviers. Là où Jésus peinait, était seul, à prier son Père sur le point de donner sa vie pour racheter le monde entier, avec à ses côtés trois disciples, trois apôtres qu'il avait appelés pour prier avec lui et le soutenir. Ces trois apôtres, vous le savez, s'étaient endormis de tristesse. Thérèse se dit, c'est là où moi j'aime me tenir, pour là où les trois ont failli, que je sois au moins là, moi Thérèse, aux côtés de Jésus, pour prier avec lui, être à ses côtés. Eh bien, si nous aimons cela, imaginons au début de notre prière être à côté de Jésus au jardin des Oliviers. Ou bien, n'hésitons pas à nous imaginer être comme Marie, au pied de Jésus, écoutant sa parole pendant que Marthe s'affaire au service. Ou bien, imaginons être, si nous sommes plutôt de la nuit, imaginons-nous être avec Jésus en fin de journée, lorsqu'il priait son Père, le soir et le début de la nuit, pendant que les foules étaient renvoyées chez elles. Ou bien, si c'est le petit matin, imaginons être aux côtés de Jésus au petit matin, alors que tout le monde se réveille plus ou moins, les apôtres se réveillent, un petit feu de camp qui est là, et je suis là tout seul, avec le Seigneur qui est déjà debout avant tout le monde, et je tiens mon regard fixé sur lui, et lui sur moi. Faisons notre manière. Ce matin, j'ai pris le train, très tôt, et donc j'ai prié dans le train, et c'était ma manière de faire, puisque au début, tout était calme, évidemment, les gens étaient plus ou moins dormis, et puis, le temps passant, les gens se réveillaient, et puis commençaient à papoter, qui avec son voisin, qui avec son ami, qui avec son smartphone, et ma manière de prier à ce moment-là était, ben voilà, je me retrouve au petit matin, la foule se réveille, et commence, en plus en Orient, ça commence à bien parler dans tous les côtés, et ça m'a aidé à ne pas quitter mon recueillement. Et ce recueillement va me permettre de passer de cette relation imagée avec mon Seigneur à une relation plus profonde, intime, personnelle, puisque le centre de l'âme, c'est Dieu. C'est une expression de Saint Jean de la Croix dans la Vie Flamme. C'est plus fort que de dire qu'au centre de l'âme, au centre de ma personne, il y a Dieu. Le centre de l'âme, c'est Dieu. Et il est là, au plus intime de moi-même, me connaissant mieux que moi-même, et c'est lui qui m'attire à lui. D'où le recueillement qui advient quand je suis en prière. Le recueillement, je peux le favoriser. Je ne peux pas le créer, mais en tout cas, je peux le favoriser. Et ce recueillement advient quand mon Dieu, mon Seigneur, m'attire à lui progressivement. Et c'est comme cela que le recueillement advient. En attendant, autant que je peux le comprendre, dit Sainte Thérèse, c'est à la page 12, autant que je peux le comprendre, la porte où l'on entre dans ce château, le château de mon âme, le château de ma personne, le château où au centre il y a Dieu lui-même, c'est l'oraison, et Thérèse rajoute, la considération. C'est très important. C'est l'oraison et la considération. En général, on insiste beaucoup sur l'oraison et on parle beaucoup moins de la considération. La considération, c'est quoi ? Eh bien, c'est le fait de savoir devant qui je me tiens et qui je suis, moi, devant le Seigneur, avec qui je suis. Et qui me permet de savoir devant qui je me tiens et qui me permet d'avoir une vision un peu plus réaliste de la personne que je suis, du pécheur que je suis ? L'Écriture, la méditation des Écritures, la Bible. Ici, poursuit Thérèse, je ne distingue pas la prière mentale et la prière vocale, car pour qu'il y ait prière, pour qu'il y ait oraison, il faut qu'il y ait considération. En effet, une oraison où l'on ne considère pas à qui on s'adresse, ce que l'on demande, ce qu'on est, et la dignité de celui à qui on s'adresse, ne peut pas, à mon avis, s'appeler prière, bien qu'on remue beaucoup des lèvres. Quelquefois, cependant, l'oraison sera réelle sans que l'on s'applique à ses réflexions. Cela viendra de ce qu'on s'y sera appliqué d'autres fois. Mais si quelqu'un avait l'habitude de parler au Dieu de majesté, comme il parlerait à son esclave, sans prendre garde s'il dit bien ou mal, et en se contentant d'articuler ce qui lui vient à la bouche ou ce qu'il a fini par retenir par cœur, je n'appelle pas cela une oraison. Et plaise à Dieu qu'aucun chrétien ne prie de la sorte. Sur ce point, si une autre Thérèse, la petite, qui avait bien remarqué qu'il est beaucoup plus fructueux, beaucoup plus aidant de dire qu'un seul Notre Père ou qu'un seul Je vous salue Marie, mais lentement, en pesant le poids des mots que l'on dit, en pesant le poids de à qui je m'adresse et qui je suis, moi, à qui je m'adresse, c'est beaucoup plus aidant que dire un chapelet mitraillette. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, et bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Hop. Et le deuxième. Je n'ose pas dire que c'est pas bien, parce qu'un jour j'ai appris que lors d'un chapelet mitraillette, quelqu'un s'était converti. Donc je n'ose pas dire que c'est pas bien. Mais c'est beaucoup plus nourrissant de dire un seul « Je vous salue Marie » en prenant le temps de considérer que Marie est devant moi, qu'elle est immaculée, qu'elle est ma mère, que devant elle je ne suis qu'un pécheur, mais je ne suis pas découragé parce que justement je suis son fils bien-aimé, je suis sa fille bien-aimée et qu'elle prie pour moi aujourd'hui et à l'heure de ma mort. Rien que ça dit lentement en essayant de m'imaginer Marie devant moi et qui je suis moi devant elle, me portera beaucoup plus car « Je vous salue Marie » et même une dizaine, dites à toute vitesse. Thérèse parle donc, dans la citation que nous venons d'entendre, de se renfermer dans le petit ciel de notre âme. Oui, l'âme est semblable à un palais, à un château, d'une immense richesse, construit tout en or et en pierres précieuses de toutes sortes. C'est la vision qu'elle a eue avant d'écrire le château intérieur, le livre des demeures, son traité spirituel qui, à ses yeux même, était le plus abouti. L'âme est précieuse parce qu'elle est à l'image de Dieu. Et cette beauté est insoupçonnée, un peu comme la beauté que l'on découvre lorsqu'on ne se contente plus d'être à la surface de l'eau, par exemple, mais qu'on se met à faire de la plongée sous-marine, avec des récifs et des coraux, des poissons de toutes couleurs et de toutes espèces, et qu'on n'imaginait pas en restant à la surface. Eh bien, pour nous, c'est pareil, un peu comme la plongée sous-marine. Quand on plonge en nous-mêmes, on voit une beauté de l'âme, une beauté habitée de Dieu lui-même, qu'on ne soupçonnait pas quand on vit à la surface de nous-mêmes, dans une vie superficielle. La sainte ajoute que pendant longtemps, elle savait qu'elle avait une âme. Mais si elle comprenait qu'elle avait une âme, elle ne comprenait pas qui habitait cette âme. Elle restait à la surface des choses, au sein d'une vie superficielle. Et elle se dit que si elle l'avait su plus tôt, elle n'aurait pas laissé le Seigneur plus longtemps dans ce château de l'âme. Le secret est là. Comme dit Thérèse, que l'âme rentre en elle-même avec son Dieu. Pour le rejoindre dans son intériorité profonde, avec cette grâce où le Seigneur irrigue notre âme comme l'eau irrigue un jardin et lui le rend ce jardin vivant, avec toutes sortes de fleurs, toutes sortes de fruits en abondance. Et alors, notre prière pourra vraiment nous stimuler dans notre vie de tous les jours. Et alors, notre vie pourra être transformée. Et alors, nous pourrons dire, nous aussi, à la suite d'Ahmed, ce musulman dont je parlais, converti dont je parlais en début, ou bien à la suite de Rajesh, lui aussi, c'est un hindou converti par Saint Carlo Acutis, nous pourrons faire l'expérience, nous aussi, que la prière chrétienne change notre vie. Parce qu'elle nous change de l'intérieur, et quand une âme, quand une personne est changée de l'intérieur, sa vie autour d'elle est changée, comme par rayonnement. Alors, prenons une troisième Thérèse. On a parlé beaucoup de Sainte Thérèse d'Avila, on a parlé un petit peu de la petite Thérèse. Parlons de Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, Edith Stein, qui a donné un bon témoignage à des mères de famille en 1931. En 1932, par exemple, pardon, le 12 janvier 1932, sur l'impact qu'une prière pouvait avoir dans la vie quotidienne, même au sein d'une vie quotidienne très, très remplie, avec un agenda surbooké. Voici ce que dit Edith Stein. La profondeur spirituelle, le calme, l'absence d'orgueil, la chaleur et la clarté, comment pourrait-on réussir à les posséder ? Voici quelques indications pour montrer comment la journée devrait être organisée pour faire une place à la grâce de Dieu. Et elle continue en disant « Notre intériorité est remplie de diverses manières par une nature qui nous vient de l'extérieur, à tel point qu'une chose en chasse toujours une autre et nous tient dans la tempête et l'inquiétude dans un mouvement permanent. » Il est déjà 11h30, j'ai encore rien prévu pour les courses, il faut vite que j'aille courir au Franprix, faire les courses, et puis après, ma journée va être ça. Dès le matin, lorsque nous nous réveillons, les devoirs et les soucis de la journée veulent déjà se jeter sur nous, lorsqu'ils n'ont déjà pas troublé le calme de la nuit. Ici se dresse l'inquiétante question, comment tout cela peut-il trouver place en une seule journée ? Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience. Vous vous réveillez le matin, vous savez déjà la masse de travail qui vous attend, la masse de choses à faire qui vous attend durant toute la journée. Au sens que vous avez l'impression que toute la journée, vous allez passer à courir comme un lapin jusqu'à 21h, 21h30 le soir. Ici se dresse l'inquiétante question, c'est toujours Edith Stein qui parle, comment tout cela peut-il trouver place en une seule journée ? Eh bien, c'est le premier combat de la journée. Et comment puis-je mener à bien ceci et cela ? Ainsi poursuivi, on a envie de s'emporter et de se lancer tout de suite au travail. Cela signifie qu'il faut prendre les rênes en main et dire « tout doux, tout doux ». Avant tout maintenant, presque rien ne doit s'approcher de moi maintenant. Et Edith Stein a cette belle formule « ma première heure du matin appartient au Seigneur ». Alors par rapport à ce premier combat, je me réveille, j'ai une multitude de choses à faire, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, alors imaginez, je n'ai pas trop de temps pour la prière, j'irai à la messe en courant, etc. Edith Stein prend exactement le contre-pied en disant « ma première heure appartient au Seigneur ». Edith Stein considère la prière et cette relation d'intimité avec le Seigneur comme un investissement. J'accepte de perdre du temps, mais je serai plus efficace après pour gérer mon emploi du temps. Un peu comme quelqu'un, pardon pour l'image qui n'est pas très belle, mais j'en ai pas trouvé d'autre, qui accepte de perdre de l'argent en investissant sur une entreprise ou en bourse ou autre. Donc dans un premier temps, je perds de l'argent, mais j'espère bien en récolter davantage dans un deuxième temps. Et Edith Stein fait le même calcul, entre guillemets, avec la prière. Ma première heure appartient au Seigneur, et si j'aborde la journée en ayant commencé par prier, elle va se dérouler de manière plus calme, elle va se dérouler de manière plus efficace, plus créative, plus sereine que si je n'avais pas prié. Et ça, mes frères et sœurs, beaucoup de personnes en font l'expérience. Beaucoup de personnes font l'expérience que dans la prière, elles ne ressentent pas grand-chose. Par contre, le jour où elles ont oublié ou pas pu entre guillemets, prier, elles se rendent compte le soir que elles sont plus essoufflées que d'habitude, elles sont trouvées plus irritables que d'habitude, elles ont été moins entreprenantes, moins créatives que d'habitude, elles ont été, voilà, moins en tout. Et là, on voit l'impact réel de la prière dans notre vie. Alors, Edichstein continue. « La tâche quotidienne qui m'incombe, je veux la mener à bien. Et lui, Dieu, me donnera la force d'en venir à bout. » Et j'ai eu mon premier combat, l'affolement, panique, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai pris une première décision, stop, ma première heure appartient au Seigneur. Elle continue. Je veux aussi m'avancer devant l'autel de Dieu. Ici, il ne s'agit pas de moi et de mes petites affaires insignifiantes, mais plutôt du grand sacrifice expiatoire. Je peux y participer, laver mon âme et laisser jaillir la joie et me mettre aussi avec toutes mes occupations et mes peines auprès de l'offrande sur l'autel. Elle parle de la messe. Et quand le Seigneur vient sur moi dans la communion, alors je peux lui demander « Qu'attends-tu de moi, Seigneur ?» Edichstein, quand elle se recueille, quand elle a communié, elle dit « Qu'attends-tu de moi, Seigneur ?» C'est la relation qu'elle cherche à instaurer avec le Seigneur dans la prière. La prière est une affaire de relation. C'est pour ça que notre ami Rajesh, dans la prière hindoue, rien ne se passait dans sa vie, selon son propre témoignage. Parce que la prière hindoue, bouddhisme, zen, yoga, etc., n'est pas une recherche de relation, une recherche de vide, de concentration, etc., ce qui peut avoir des effets bénéfiques, tout en étant assez limité, alors que la prière chrétienne, au contraire, est une prière de relation. Maintenant, commence le travail de la journée. Peut-être 4 ou 5 heures de service scolaire d'affilée. Alors, quand elle parle de service scolaire, en fait, elle était professeure d'université. Pendant l'une ou l'autre heure, on ne peut arriver à faire ce qu'on voulait, peut-être même à aucun moment. Sa propre fatigue, des interruptions imprévues, l'inconstance des étudiants, parfois même la mauvaise humeur, la révolte, l'inquiétude, ou bien le bureau. Les relations avec des supérieurs ou des collègues désagréables, des réclamations irréalisables, des reproches injustes, la misère humaine, peut-être aussi la détresse de multiples manières. Vient l'heure de midi, épuisé, abattu, on rentre à la maison. Ça vous est jamais arrivé? Là, poursuit Edichstein, là, nous attendent peut-être de nouvelles attaques. Où est maintenant la fraîcheur matinale de l'âme? À nouveau, tout cela veut fermenter et donner l'assaut, la révolte, l'irritation, les regrets. Ne doit-on pas aussitôt avancer? Paf, j'ai à nouveau ce premier combat. Vite, activisme. Non, répond Edichstein, non, pas du moins, avant que le silence soit entré à nouveau, le temps d'un clin d'œil. Alors j'aime bien le mot en français, parce que si vous mettez œil au pluriel, ça fait un clin d'œil, dans les deux sens du terme. Et bien c'était la technique d'Edichstein que le pape Léon aime beaucoup. Lui, il la puise dans le frère Laurent de la Résurrection, un frère carme du XVIIe siècle. Et le pape Léon nous invite à avoir au cours de notre journée des clins d'œil, c'est-à-dire des petits moments furtifs où je ferme les yeux, ne serait-ce que l'espace d'un instant, pour rechercher à nouveau cette prière recueillie, cette relation intime qui est là, présente au-dedans de moi. Alors Edichstein continue sur cette question. Chaque personne doit se connaître elle-même ou apprendre à se connaître pour savoir où et quand elle peut trouver du calme. Le mieux, quand elle le peut, est de répandre à nouveau tout souci pendant un court instant devant le tabernacle. C'était la manière de faire d'Edichstein. Elle, en cours de journée, elle prenait régulièrement ses courts instants de prière et quand elle fermait les yeux, elle s'imaginait être dans son église, devant le tabernacle, devant la présence réelle de Dieu, là où elle disait se tenir devant Dieu pour tous. À chacun de trouver sa manière. Pour d'autres, ce sera, je ferme les yeux et j'imagine être au sommet d'une colline, environnée d'une nature rayonnante, à prier le Dieu de la création qui a créé toutes ces merveilles, et je m'imagine être là. Pour d'autres encore, ce sera, je ferme les yeux, je m'imagine être devant la grotte de Lourdes, parce que j'aime beaucoup le sanctuaire de Lourdes. Ah, très bien, très très bien. À chacun de faire selon sa manière, nous dit Edith Stein. Pour qui ne peut le faire, poursuit-elle, pour qui ne peut le faire, qui aussi peut être un besoin absolu de calme corporel, une pause dans sa propre chambre. Et quand il n'est pas possible d'obtenir le moindre calme extérieur, quand on n'a pas de pièce où se retirer, quand les devoirs impérieux empêchent une seule heure de silence, alors se retirer au moins le temps d'un clin d'œil et s'enfuir auprès du Seigneur. Il est là et peut nous donner ce dont nous avons besoin en un unique clin d'œil. Ce clin d'œil viendra à raviver ma prière matinale pleine de fraîcheur. Quand vient la nuit, poursuit Edith, quand vient la nuit et que l'examen de la journée montre tout le travail qui a été fait, mais aussi tout ce qui reste à faire, tout ce qu'on a projeté, quand s'éveille tant d'humiliation profonde et de regrets, alors tout prendre tel quel, le déposer dans les mains de Dieu et le lui abandonner. Il s'agit là d'un troisième combat. Le premier combat pour Einstein, c'était « Halte au feu, ma prière, ma journée commence avec le Seigneur. » En tout cas, j'ai dans ma journée un temps dévolu au Seigneur. On n'y touche pas, que ce soit le matin, que ce soit le soir, ou entre midi et deux, on n'y touche pas. Vous savez un petit peu, comme quand on a un rendez-vous chez le médecin assez important, c'est le lundi à 11h30, alors là, on n'y touche pas. On pourra me dire, oui, tiens, j'ai besoin de toi pour... Non, à 11h30, j'ai un rendez-vous, et ce rendez-vous, rien ne le remettra en cause. Eh bien, il est bon, et c'est le conseil de Sainte Thérèse d'Avila, d'avoir nous aussi, dans notre journée habituelle, un créneau horaire intouchable, le médecin de mon âme, et personne ne le virera. Alors vous avez bien deviné que le meilleur moment, c'est soit le matin, soit le soir. Deuxième combat, c'est prendre le temps en cours de journée de refaire une petite halte et de se retrouver en présence du Seigneur, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil, que le temps d'un clin d'yeux. Et troisième combat que Einstein vient de nous donner, troisième décision à prendre, halte à l'auto-introspection, pour ne pas dire l'auto-auscultation, un peu trop, narcissique. Oui, dans ma journée, j'ai des choses que j'ai ratées. Ben, c'est normal. Moi qui voudrais être parfait, je constate que je suis un pécheur. Alors c'est vrai qu'il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des rendez-vous ratés, des choses que j'ai mal faites. Mais plutôt que de gémir sur moi, tout déposer dans les mains de Dieu et le lui abandonner, nous dit Edith Stein. Si je commence à être dans une auto-introspection, à une auto-auscultation, pour refuser le fait que je suis faillible et limité, alors je suis dans la même perspective que celle qui a perdu Lucifer lui-même. Je reprends Edith Stein. Ainsi pourra-t-on se reposer en lui, se reposer vraiment, et commencer un jour nouveau comme une nouvelle vie. Quant aux moyens qui sont propres à produire, à garder fermement ou aussi à vivifier à nouveau les liens avec l'Éternel, comme la contemplation, la lecture spirituelle, la participation à la liturgie, aux dévotions, etc. Tous ne sont pas également féconds pour chacune à tout moment. La contemplation, par exemple, peut ne pas être pratiquée par tous ou toujours de la même manière. Il est important, conclut Einstein, il est important de trouver ce qui est le plus approprié pour chaque cas particulier et d'en tirer profit. Bref, à chacun sa manière de faire. La prière n'est pas une technique. La prière, c'est un ensemble de repères qui nous sont donnés à nous, de nous approprier ces repères, ceux qu'on vient déjà de commencer à voir, pour tisser cette relation où le Seigneur nous attend, où nous sommes attendus de lui. Alors bien sûr, il y a parfois des difficultés qui se présentent à nous. Mais le temps est écoulé, nous les verrons cet après-midi, ces difficultés. Pour l'instant, place à l'oraison, place à cette prière d'intimité avec notre Seigneur. Et avant de, pour nous aider à plonger dans cette oraison, dans ce moment, dans ce quart d'heure, dans ces 20 minutes de prière silencieuse, nous allons chanter.
Page 4.